Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Lui aime manger les autres, mais dit-il, avec respect. Lui qui cultive et aime partager ce qu'il appelle cette vibration de ce qui nous reste d'instinct prédateur. Lui, le conservateur en chef et directeur du musée de la chasse et de la nature. N'allez pourtant pas croire qu'il passe son temps à astiquer ses fusils. Il a rangé sa carabine il y a déjà un moment, après avoir blessé, dit-on, un lapin. Et si ce gentleman nous convie aujourd'hui à un safari, c'est pour mettre à l'honneur les chasses fictionnelles, ces récits pas toujours authentiques qui suscitent l'envie ou la moquerie et qu'il a choisi de sublimer à travers des œuvres d'art, peintures, photos, sculptures à la fois contemporaines et irrévérencieuses et des planches de bande dessinée iconoclastes. L'exposition Safari, Safarix est à découvrir au musée de la chasse et de la nature à Paris jusqu'en septembre et Claude Dantenaise, le maître des lieux et co-commissaire de cette exposition est donc à nos côtés, le pied fièrement posé sur la dépouille d'un tigre à dents de sabre. Claude Dantenaise, cependant, est-elle vraiment authentique, cette histoire de fusil raccroché après avoir blessé un lapin?
Écoutez... je vous laisserai interpréter comme en fait beaucoup de récits de chasse. Celui-ci n'est pas très glorieux, mais il y a toujours une part de rêve, une part de fiction.
Est-ce qu'on imagine que vous avez laissé dans ce pauvre lapin un trou, comme dans les faïences de Christian Gosenbach, qu'on voit sur les affiches qui sont exposées dans Safari?
Le lapin a cette particularité de crier comme un bébé, donc c'est pas très agréable de le blesser. Voilà, et je pense qu'en fait, mon expérience de chasseur, tout d'un coup, la fiction s'est interrompue. Voilà, la bulle s'est éclatée. Et personnellement, je me suis dit, moi, je ne prends pas de plaisir à faire ça. Donc, voilà. Mais je peux comprendre que d'autres gens le fassent, et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est nécessaire.
Et qu'on retrouve la chasse aux bulles dans la partie BD Safarix.
Absolument.
Allô Paris? Entendez-vous? Une aventure que Jules Verne, ce fameux chroniqueur, a rendue célèbre.
Un jour, comme le héros de son roman contemporain d'aventure maritime, lui, est passé de l'état de non-être à celui de chevalier des mouillés. Oui, il s'est engagé dans la houle plumitive, d'abord pour la presse, Technicart, puis avec son propre navire, la revue Standard. Comme son héros, il fait aussi de la radio dans un cargo, façon pirate sur les ondes ondoyantes de Radio Nova, il lit la nuit. Et pour lui, cette radio nocturne, c'est comme pour les marins, des lueurs de la lune sur la mer. Mais le grand bain, le large des bonhommes, pour lui ce sont les pages de ses romans, les heures pâles, puis un contre-guide touristique sur Mykonos hors saison. Le revoilà avec ce roman d'initiation maritime et magnétique, L'Aimant, illustré par Riff Rebs, le baron du dessin, Dixit Moebius. Richard Guetti, je propose d'ouvrir ce roman à la page 101
avec
et de
plaisir.
Partir à l'aventure.
Chaque homme est une bête en sommeil. Chaque homme abrite des barbares assoupis qui ne demandent qu'à se réveiller. Ils hurlent. À chaque fois que tu souffres, tu les entends cogner aux parois de ton esprit. Tu voudrais frapper, toi aussi. C'est une meute. Seras-tu un lion ou un mouton ? Tu portes en toi des questions lourdes dont tu dois te défaire pour avancer. Seras-tu un saint ou un démon? Je crois savoir quelle est la réponse, mais tant que tu n'en seras pas convaincu, tu échoueras. Éprouve ta colère, d'où vient-elle et pourquoi? Fais l'expérience de ta violence, mais sois prudent. Quand tu regardes l'abîme, l'abîme aussi regarde en toi. Mais d'où sortait ce pot rouge nietzschéen qui distribuait des ponchos 6 pieds sous terre? Rejoins tes compagnons, chante-loup. Le combat peut commencer. Brise les fourbes, casse les cupides et repousse les marchands du temple en ne te fiant qu'à ton intuition. Il te faudra pour cela dériver au sud de toute chose. C'est là que nous nous reverrons.
Thank you. Nous avons donc suivi l'une des pages de ce roman L'aimant Richard Guettet, où votre héros, Gabriel Chanteloup, toujours un Gabriel, hein, dans Les Heures Pâles c'était déjà un Gabriel, ce héros donc qui rencontre un chaman nietzschéen. Il y a un aspect, le livre dont vous êtes le héros, dans ce roman L'aimant, parce que à un moment vous nous dites rejoignez-nous pour faire taire cette énigme, nous devons savoir ce qui se trame entre les pattes du sphinx de glace. Mais au fond, le roman d'aventure aujourd'hui, est-ce que vous êtes penché sur cette forme? Est-ce que pour vous, de la manière dont vous le dites en exergue du chapitre 1, est-ce que ce qu'il reste avant tout à découvrir, ce n'est pas soi-même plutôt que la mer?
Tout à fait. Mathilde, en fait, c'est assez drôle parce que ce qui m'a poussé vers le roman d'aventure, c'est qu'on dirait que c'est un genre en désuétude qui, pourtant, intéresse absolument tout le monde, j'ai l'impression. Mais c'est un genre qui, curieusement, n'est pas investi par les écrivains contemporains. Je dirais, je vais me contenter de parler des écrivains français. Pourtant, c'est quelque chose, j'ai l'impression que rencontrer des hommes intrépides, des femmes fatales, résoudre des énigmes, partir aux quatre coins du monde, être embarqué dans des aventures qui vont faire de nous des personnes meilleures, combattre les forces du mal sous toutes leurs formes, c'est grosso modo quelque chose qui peut exciter n'importe quel lecteur. Donc je pars de ce constat, je me dis tiens, moi j'ai envie d'en lire, j'aimerais en lire des romans comme ça faits par des écrivains vivants dans ma langue, il y en a très peu. Donc je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis je tombe, si vous me permettez de recadrer un petit peu l'origine historique de cet ouvrage, je tombe sur cette histoire, cette généalogie littéraire, à savoir que en 1837, me semble-t-il, 38, Edgar Allan Poe, tout jeune, est à la tête d'une revue du côté de Richmond en Virginie, et fait croire à ses lecteurs qu'il a en sa possession le journal tenu par le jeune fils d'un commerçant de Nantucket qui est parti à l'autre bout de l'Antarctique, et il distille à chaque numéro le récit de son aventure matinée de cannibalisme, de mutinerie et de perte absolue. Or, c'est faux, il a tout écrit, et les lecteurs de l'époque deviennent complètement maboules parce que il dit « je n'ai pas la fin, je n'ai pas le dernier chapitre ». Donc quand le bouquin finit par sortir, il ne met pas de dernier chapitre, il laisse trois petits points, ça fait péter les plombs d'Herman Melville, de Borges, de Baudelaire qui sera son traducteur, et de Jules Verne à la fin de sa vie, 60 ans plus tard, qui se dit, je vais écrire la suite des aventures, pardon, j'ai oublié de donner le titre du bouquin d'Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Il se dit, je vais écrire la suite de ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après les trois petits points au pôle sud. Et il imagine donc la suite avec
le sphinx.
Le sphinx, imagine la présence d'un sphinx des glaces, j'en dis pas trop. Et il y a un post-scriptum au bout de ces 400 pages, écrit par Jules Verne, qui dit, parce qu'il expédie assez vite, il a une idée romanesque géniale pour résoudre cette énigme, mais il l'expédie assez vite. Il est juste un petit post-scriptum, je laisse le soin aux écrivains du futur d'arracher les derniers secrets de l'Antarctique. Et je vois ça, ça m'a fait complètement péter les plombs. Je me dis, est-ce que ça a déjà été fait? Et je passe plusieurs jours à chercher, même dans d'autres pays, est-ce que quelqu'un a fait la suite de la suite?
Une aventure littéraire avant même d'être une aventure maritime.
Et en fait, personne n'a fait, donc je me suis attelé à essayer d'honorer la mémoire de mes aînés.
Claude Dantonez, vous êtes aussi nourri non seulement de récits de chasse plus ou moins fantasques, mais aussi de récits d'aventure?
Oui, alors, l'un et l'autre vont souvent ensemble. Hein, donc, dans toute action de chasse, il y a bien sûr le plaisir de l'action elle-même et puis aussi le plaisir de la narration. Beaucoup de chasseurs sont des conteurs. Et donc, ils sont en permanence dans la représentation, pour eux-mêmes ou pour le public. Et à mesure que la pièce est rejouée, elle est enrichie et elle devient de plus en plus loin de la réalité.
On trouve des sphinx et des femmes fatales. Alors, si on revient aussi à l'origine historique du safari, puisque c'est le titre de cette exposition au musée de la chasse et de la nature, dont vous êtes à la fois le conservateur en chef, le directeur et le co-commissaire pour cette exposition-ci, l'origine historique du terme safari vient du Swahili et signifie voyage. On est comme dans un roman d'aventure, dans un récit initiatique. Après, c'est repris au 18e, au 19e siècle par la gentry anglaise qui n'a plus vraiment le droit de chasser le renard et qui se met à chasser le phacochère et le rhinocéros. Le rite initiatique, c'est peut-être tout d'abord s'affronter au danger, s'affronter à la mort. En quoi cette question d'importance est-elle sensible dans votre exposition, puisque vous le dites, le musée de la nature, de la chasse et de la nature, c'est d'abord un musée d'émotions, Claude Dantonez?
Précisément, je pense que les chasseurs de safari au XIXe siècle, en pleine époque romantique, estiment que l'aventure n'est plus tellement possible en Europe où tout est aménagé, où le chemin de fer apparaît. Voilà. Et en fait, ils vont fantasmer, ils vont rêver d'un ailleurs, d'espace nouveau et d'animaux étranges. Et ils vont se diriger vers l'Afrique. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a déjà eu des récits de voyageurs qui eux-mêmes ont fabriqué une image de l'Afrique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les chasseurs donc, qui partent pour les safaris vont à leur tour enrichir toute cette littérature, cette espèce d'image fantasmée de l'Afrique, jusqu'à une période donc, très très récente. On est toujours dans cette espèce de construction fictionnelle. Et on va partir là-bas pour vivre l'aventure, pour se confronter à des animaux dangereux et pour avoir le plaisir après de pouvoir le raconter.
Si on n'est pas tué, parce que justement il y a la mort aussi, il y a un travail des œuvres qui moi m'ont particulièrement touché dans ce que vous présentez, le travail de Brechtold Steruwitz qui propose des sortes de visions de cauchemar, un peu comme l'envers de cette aventure ensoleillée.
Alors Brechtold Steruwitz, il fait partie de ce cercle de Bruce Sargent, un cercle un petit peu énigmatique qui a été réuni par Mark Bird, qui est un peintre qui donne en fait une vision de l'Afrique, une vision effectivement très noire, puisque lui-même se rattache à l'école expressionniste viennoise. C'est quelqu'un qui a été blessé pendant la guerre de 14 et qui va en fait transporter son mal-être pendant toute sa vie et toute sa carrière. Donc c'est une peinture très noire qui est avec des combats d'animaux sanglants, avec une espèce de stridence colorée.
On va continuer à parler de chasse, de pêche, de nature et de tradition artistique et littéraire, hein, bien sûr, juste après ça. Xavier Bussy, hommage musical à Edgar Allan Poe avec cet Arthur Gordon Pym. Richard Guettet, vous le disiez, c'est à l'origine, c'est la généalogie de votre roman L'Aimant. D'abord donc cette histoire d'Arthur Gordon Pym par Edgar Allan Poe, la reprise par Jules Verne et puis vous, vous inscrivez dans la suite. Justement, Jules Verne parle du travail d'Edgar Allan Poe comme quelque chose d'absolument formidable sur le plan littéraire parce que ça mêle effectivement le récit, la fiction. On fait passer le réel sous le manteau de la fiction. Est-ce que c'est pas aussi avant tout un livre sur la question de l'écriture, ce roman L'Aimant ? Et d'ailleurs, on se balade aussi un moment dans une bibliothèque qui se trouve au cœur du cargo, le Sirius, hein, dans lequel a embarqué le héros, parmi les Lévi-Strauss, les Philippe K. Dick, mais aussi les Sokolov, les Michaud et même les Botulles. Donc qu'est-ce que vous avez mis, vous, de ce qui est pour vous l'enjeu littéraire aujourd'hui et l'enjeu d'écrire dans ce livre ?
Waouh, question assez balèze. Le principe, je pense, c'est, enfin moi, ce qui m'excite énormément et qui réactive aussi une part d'enfance, c'est le feuilleton. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été très présent au début des années 2000 via une série que je pense vous et Claude, j'en suis presque sûr, une série que vous avez vue, c'est Lost, c'est-à-dire l'histoire de 40 naufragés qui sont sur une île absolument paumée quelque part entre Sydney et la Californie et qui était découpée sur 6 ans où on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Moi, ça a provoqué chez moi une espèce d'excitation perpétuelle en me disant je ne sais quasiment rien, j'ai accès à 2% ou 10% de ce qui se passe sur cette île. Je vais répondre à votre question sur l'écriture. Je vois vos petits sourcils, les pingouins qui sont en train de se froncer. Attendez,
je suis toutouille.
J'arrive.
Telle une notarie.
Donc du coup, je me suis dit bon, alors je garde cette excitation, j'essaye de modestement d'investir le roman d'aventure. Se pose la question de l'écriture. Qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment est-ce qu'on s'inscrit dans une tradition. Et je pense, rester au plus près de mes émotions de lecteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très gentiment. La nuit, je lis, c'est-à-dire je suis sur l'antenne de Radio Nova et je fais partager mes coups de cœur de littérature. Donc du coup, je dois trouver ma place à l'intérieur des grands récits qui sont un peu écrasants, un peu, ça fait un petit peu peur. On se dit, tiens, par exemple, moi j'ai un choc incroyable en lisant Lord Jim de Joseph Conrad. Je me suis dit, tiens, j'avance avec mes petites pantoufles d'écrivain dans ce sentier-là. Qu'est-ce que je peux bien ajouter et en fait, je pense que, et c'est là que j'arrive à votre question précisément, à la réponse à votre question, je pense que ce qui m'excite le plus, c'est mélanger le vrai ou le faux. Le coup de génie d'Edgar Allan Poe à seulement 27 ans dans son journal en 1838, c'est de faire présenter pour vrai des choses entièrement fausses. Et le coup de génie 60 ans plus tard de Jules Verne, c'est de partir du principe que ce qui a été présenté dans le roman Aventure d'Arthur Gordon Pym, c'est vrai. Il a d'ailleurs consacré un essai à Edgar Allan Poe. C'est la seule fois qu'il écrivait vraiment un livre sur un autre écrivain. Il disait, ce qui m'excite, l'excitation, elle vient du fait qu'il fait croire. Et ça, c'est la base du travail de romancier. C'est faire croire, y compris à l'invraisemblable. Donc, je me dis, moi, j'honore cette tradition très simplement en prenant une base. C'est Jules Verne et Poe ont dit des choses vraies. Ce n'est pas des romans. En fait, ils nous ont transmis des choses vraies pour nous prévenir d'un danger, un horrible péril capitalistique qui écrase notre univers contemporain. Voilà, dont ce sphinx des glaces serait la métaphore.
Il se trouve, Claude Dantonez, que c'est peut-être aussi le propre du chasseur, de mélanger le vrai et le faux. Vous le disiez, on a besoin d'un récit après une partie de chasse pour peu qu'on en revienne en un seul morceau. L'écriture que vous avez adoptée pour cette exposition au musée de la chasse et de la nature, ce sont les images, ce sont les formes, celles des sculptures, celles des peintures, mais aussi celles des photographies. J'aimerais que vous nous disiez un mot des images de safari subverties par Nicolas Rubinstein.
Alors effectivement, tout est fait pour dérouter et pour tromper le visiteur. Donc, en fait, il y a des faux et des supercheries à tous les étages. Donc, Nicolas Rubinstein, lui, a fantasmé un safari dans le paysage urbain marseillais. Donc, il s'est costumé avec la tenue traditionnelle, le casque colonial, la saharienne. Il a donc voilà l'arme en bandoulière et on le voit observer donc ce qui pourrait paraître à première vue donc une savane. Et en fait, quand on regarde de près, c'est la gare Saint-Charles. Ou alors dans d'autres photos, en fait, il pose avec l'attitude traditionnelle justement du chasseur qui a triomphé de l'animal sauvage et qui met le pied sur la dépouille. Mais là, en l'occurrence, c'est sur de vieilles bagnoles ou sur des tas de pneus. Voilà. Donc, et en fait, quand on regarde assez rapidement, on se dit, mais effectivement, c'est l'univers du safari. Et si on est un peu plus observateur, on se rend compte effectivement que c'est complètement dans la tête. Ce safari, il n'est pas sorti de Marseille.
Et donc, il y a une dimension aussi nostalgique, comme dans le goût et la frénésie de Richard Guettet pour le roman d'aventure dans cette exposition Safari et en particulier dans ces images.
Oui, il y a une petite dimension nostalgique puisque effectivement ce sont pour la plupart des représentations en fait d'une Afrique qui n'est plus. Je pense que même le chasseur de safari photographique, il va en fait retrouver une image de l'Afrique qui n'est peut-être pas l'Afrique contemporaine, mais ça n'est pas celle qu'il veut voir. Lui, il a envie de retrouver justement les aventures, les paysages des pionniers des safaris dans les années 1850-1860. Et en fait, il va omettre volontairement, en faisant des photos, tout ce qui contrarie cette vision idyllique d'une Afrique intacte, sauvage, et voilà, et en fait, où l'homme blanc foule pour la première fois des espaces encore inexplorés.
Richard Guettet voulait réagir.
Oui, j'aperçois de l'autre côté de la vallée de cet immense studio les photos de l'artiste en question et ça me fait
Nicolas
penser.
Nicolas Rubinstein.
Ça me fait penser à un autre artiste qui est basé à Lyon qui exerce la noble profession de cryptozoologue, c'est-à-dire que c'est un zoologue pour animaux imaginaires qui n'existent pas, donc monstres du Loch Ness, Yeti et tutti quanti, et en particulier il se photographie, il met en scène ses retours d'expédition, d'exploration et de chasse. Donc du coup il est perpétué dans ses photos. Alors ce qui est terrible pour la famille de cette personne qui m'écoute certainement, c'est que j'oublie le nom, donc cherchez cryptozoologue plus Lyon sur un moteur de recherche, vous trouvez tout de suite son nom, mais il se met en scène exactement comme un explorateur victorien, donc petite braie, casque colonial, mais de manière assez
pacifiste revenant avec des poulpes de Humboldt ou bien des dragons, posant fièrement à côté d'eux, les classant dans son génial laboratoire. Et c'est un type dont le travail est d'une fantaisie absolument exquise. Et je pense que vous devriez le rencontrer, vous pourriez faire une bonne petite chasse ensemble, mon petit Claude.
Écoutez, effectivement, il m'a l'air d'avoir tout à fait sa place chez nous, quand vous aurez trouvé son nom.
C'est une mauvaise habitude qu'ont pris les gens de ne pas vouloir gagner leur gibier et leur trophée à la sueur de leur front. L'idéal, pour beaucoup de gens, c'est de tirer des antilopes du siège d'une automobile. Eh bien, c'est non seulement honteux, mais ça ne veut rien dire au point de vue sportif, et il est beaucoup plus simple d'acheter les trophées chez un marchand d'antiquités.
Alors, dernier chapitre à traiter peut-être brièvement, la tendance, qui est une tendance mondiale, à passer de la chasse au tourisme et de la carabine à l'appareil photo et à la caméra de cinéma.
Comme nous voudrions voir ça se généraliser, il est évident qu'on ne peut pas user sans relâche d'un shtel qui va diminuant, qui fond devant la civilisation. Et la seule solution, c'est la chasse photographique, c'est la visite des réserves pour prendre des films et des photos. Et je ne vous cacherai pas que c'est dans ce sens que nous allons de plus en plus orienter et encourager le tourisme.
Vous écoutez l'ORTF en 1952, à l'époque des chasses françaises dans l'Afrique coloniale. Il est question de se mettre au safari photographique, vous en disiez un mot à l'instant, Claude Dantonez, mais aussi de la vilaine habitude des touristes de tirer les grandes antilopes depuis leur voiture. La technique de chasse du safari a fait évoluer la pratique des chasseurs européens, parce que foin de chevaux, les chiens supportent mal le climat, alors on s'adapte au terrain, on utilise le pistage, l'approche, comme les chasseurs indigènes, comme il est dit dans cette archive. On sait que d'aucuns chassent encore à la mode du 19e ou du début du XXe siècle. Serge Dassault était connu pour monter sur ses engins, ses machines industrielles pour tirer quelques gibiers. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des techniques de chasse propres au safari et des échos qu'ils ont dans cette exposition safari ?
Alors, effectivement, le safari a beaucoup évolué depuis les pionniers au XIXe siècle. C'est devenu en fait un enjeu économique et touristique, puisque c'est maintenant très organisé. Et à mesure que ces safaris sont organisés, la part de fiction apparaît de plus en plus. Et donc, c'est difficile de la cacher parfois. Alors, par exemple, avec le développement des safaris photographiques, on va donc dans des parcs qui sont en partie aménagée, et où les fauves prennent l'habitude de voir ces visiteurs inoffensifs qui se contentent de les approcher et de faire des photos. Si bien que, vous vous souvenez sans doute, l'an dernier, il y a eu cet émoi à propos de la mort du lion Cécile, voilà, qui était en fait le clou de ces safaris photographiques, voilà, et qui en fait se laissait approcher à près de 10 mètres pour qu'on puisse faire que des photos. Donc ça, c'était parfait, les touristes étaient ravis, avaient l'impression de vivre la grande émotion de leur vie. Bon, et malheureusement, il y a eu un croisement avec un safari qui n'était pas aussi inoffensif, et quelqu'un a battu le lion Cécile. Voilà, qui en fait, bon, c'est une fin pitoyable qui a engendré des lamentations et enfin un émoi tout à fait surprenant, parce que bon, finalement ce pauvre lion est mort, mais en fait il y en a beaucoup d'autres qui sont destinés à la même fin. Parce que vous savez qu'en fait, dans certains cas, les lions sont élevés pour les safaris. Donc il y a des fermes, ce qui est complètement absurde. Donc, en fait, il y a des fermes où on élève les lions pour justement satisfaire aux besoins des touristes, qu'il s'agisse de safaris photo ou de safaris recherche de trophées.
On le voit dans ce que vous dites, Claude Dantonez, il y a aussi un jeu entre le vrai et le faux, avec ces safaris photographiques, avec ces prises qui n'en sont pas. On retrouve donc la recherche du travail d'écriture de Richard Guettet dans cet aimant, ce roman. Moi, j'aime bien le passage aussi entre le vrai et le faux par rapport à l'époque dans votre livre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on se situe. Vous avez à la fois un langage extrêmement suranné, on est avec des tarbouifs, des olibrius, des castagneurs, des ursidés, des escogriffes, et il y a des gravures, hein, donc l'illustration de Riff Raff dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des meufs, des mails, des blind tests, des réseaux sociaux, Freddie Mercury et Christopher Walken. Est-ce que c'était pas ça aussi un jeu pour vous? Enfin, comment vous l'avez conçu, ce jeu entre les époques et ce subvertissement en fait du genre du roman maritime victime 19e.
Ma première intention, c'était de faire un roman d'époque, c'est-à-dire de vraiment prendre la suite du Sphinx des Glaces de Jules Verne, mais donc à la toute fin du 19e siècle. Un écrivain que j'aime énormément, le célèbre Bayon de Libération, enfin qui n'en est plus, mais qui était un écrivain exceptionnel, m'a dit un conseil très bref: vous allez vous noyer dans les costumes, mon petit gars, si je fais ça. Donc je prenais trop de risques de décrire une époque que je connaissais pas, et j'allais terriblement passer un temps fou à faire ça. Et puis c'est plus intéressant quand même, le défi est plus intéressant d'essayer de raconter son époque d'une manière ou d'une autre. Or, si je cède aux artefacts de l'hypermodernité, c'est-à-dire des objets trop contemporains, des références, par exemple les téléphones, qui est quand même un centre de notre vie moderne, sont quasiment absents ou ne marchent pas dans le roman. Parce que je me suis dit que trop de modernité tue l'imagination et enferme on n'arrive pas, enfin ça étouffe le rêve. Voilà. Donc je me suis dit, majoritairement, essaye de faire quelque chose contemporain, mais avec peut-être effectivement ce langage et des chevilles narratives qui proviennent des romans du 19e siècle d'aventure, mais pour quand même avoir un pied dans le cadre temporel, c'est-à-dire les années 2000-2010, qui sont jamais nommées, mais bon, on a compris, comme avec la référence que on sait, on s'envoie quand même des mails, qui marchent jamais non plus, comme si la technologie refusait d'exister dans ce monde-là. Je me suis dit, bon, j'envoie aussi des liens, j'adresse des clins d'œil aux lecteurs contemporains pour dire: vous n'êtes pas en train de lire un pastiche de romans d'aventure victorien ou du 19e siècle, mais quand même quelque chose qui a la modeste prétention de raconter votre époque.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui chasse les mots de ses invités, comme d'autres les sphinx ou les papillons.
À suivre, Radio Pirate et BD en chasse, oui, avec nos invités et le romancier Richard Guettet et le directeur du musée de la chasse et de la nature, Claude Dantonez.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Zoé Sfez pour le journal de la culture.
Ping pong.
Je comprends, effectivement.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Alors nous avons chassé, nous allons danser maintenant avec vous, puisque au cœur de votre dossier, il y a le Boléro de Maurice Ravel, tombé le 1er mai dans le domaine public, comme le prévoit la loi, 70 ans après la mort du compositeur. Mais on vient d'apprendre que jusqu'au dernier moment, plusieurs personnes se sont battues pour faire reconnaître leur aïeul comme auteur du Boléro.
Oui, alors il s'agit en effet d'Alexandre Nikolaïevitch Benois, cofondateur, décorateur, homme fort des ballets russes, qui avait donc commandé ce ballet, le Boléro. Quel rôle il a vraiment joué? La question se pose, puisqu'il y a des conséquences lourdes s'il était reconnu comme co-auteur. Je rappelle donc la loi française en la matière, elle protège donc tous les droits des ayants droit, donc des héritiers d'un auteur, jusqu'à 70 ans après sa mort. Alors ici, c'est ce qui s'est passé. Ravel étant mort en 1937, il est donc entré, ce Boléro, avec le 1er mai dans le domaine public. Mais on l'a appris, ça a failli ne pas être le cas, car la SACEM, qui gère les droits d'auteur générés par une œuvre, a été saisie par une demande. Cette demande, elle émane donc des petits-enfants de ce fameux Alexandre Nikolaïevitch Benois, homme peu connu. Il est né en Russie, il était peintre, il a fondé une revue d'art au début du siècle qui prenait le rapprochement entre Orient et Occident, et il a cofondé avec Daguilev, ce n'est pas rien, les fameux ballets russes. Il en est devenu donc le décorateur, le costumier, mais un peu aussi le directeur artistique. C'est lui, par exemple, qui a l'origine de la création du ballet Petrouchka, dont la musique était signée par Stravinsky, c'est important. Et puis, selon ses petits-enfants, c'est lui, en fait, qui a commandé le Boléro à Ravel en 1914, donc bien avant, en fait, qu'il aboutisse, projet qui a été interrompu par la guerre de 14-18, et puis qu'ensuite, il a retravaillé avec lui lors de la réalisation du ballet en 1928. Ce serait lui qui aurait imposé le canevas à l'œuvre et finalement qui aurait assuré sa finalisation alors que Ravel avait quitté la France, comme l'explique l'un de ses petits-fils, François Tcherkessov.
Au moment de la gestation du ballet Le Boléro, Alexandre Benois était aux commandes des préparatifs. Ça peut paraître étrange qu'on découvre ça aussi tard, mais cependant de nombreux documents historiques l'attestent, en particulier l'article de Louis Lallois, qui a écrit un article dans le Figaro du 21 novembre 1928. Il désigne Alexandre Benois comme l'auteur des trois ballets, dont le Boléro, donc, qui ont été représentés le 22 novembre 1928. Bah, compte tenu des relations existantes depuis au moins 1914 entre Alexandre Benois et Maurice Ravel, qui étaient des amis, nous sommes persuadés que le Boléro peut être considéré comme une œuvre de collaboration. Et donc, dans une œuvre de collaboration, il y a plusieurs auteurs. Qui est par exemple le cas du ballet Petrouchka, où Igor Stravinsky est considéré comme l'auteur, Alexandre Benois également comme l'auteur, donc il est co-auteur.
Et les petits-enfants de ce fameux Alexandre Benoît se sont vus opposer, Zoé, in extremis, lundi dernier, un avis négatif à leur demande par la SACEM.
Oui, la SACEM donc a refusé leur demande qui était de modifier le bulletin de déclaration originelle de l'œuvre pour le faire reconnaître donc comme co-auteur, ce fameux Alexandre Benoît. Elle a estimé, je cite, qu'il n'y a aucun élément direct probant d'une collaboration entre ce monsieur et monsieur Ravel, ni d'un quelconque contrat, ni d'un quelconque écrit entre les deux hommes. Alors pour les héritiers de Benoît, c'est normal. De toute façon, puisque Alexandre Nikolaïevitch Benoît était russe, qu'il était de passage à Paris, qu'il était très mauvais en administratif. Et puis, ils expliquent qu'on sait qu'ils ont été amis, qu'on dispose de plusieurs photos des deux hommes ensemble avec leur famille dès 1914. En tout cas, ils expliquent aujourd'hui qu'ils veulent absolument faire reconnaître le rôle de leur fameux aïeul. La SACEM, elle, a dit non. Il faut dire que si elle reconnaissait Benoît comme co-auteur, il faudrait prendre la date de sa mort à lui comme point de départ des 70 ans qui protègent l'œuvre, ce qui ferait que le Boléro tomberait dans le domaine public en 2030, puisque lui est mort en 1960. Olivier Ertched est maître de conférence à l'université de Nantes en sciences de l'information. Il juge la démarche de ses héritiers assez honteuse. Lui, il milite pour faciliter l'accès libre aux œuvres. Pour lui, cette affaire, Ravel, est emblématique d'un problème de fond en France.
Il n'y a aucune légitimité, puisque le droit d'auteur a joué à plein. Il a, c'est-à-dire, protégé les héritiers. En plus, dans le cas de Ravel, on est dans une situation tout à fait particulière, parce qu'il n'avait pas d'héritier, donc il a légué, entre guillemets, ses droits à son frère. Ensuite, il y a eu toute une série d'histoires totalement rocambolesques avec des masseuses, des fonds de pension, enfin tout ça, c'est à récupérer les droits. Et donc au final, on se retrouve dans une situation où malheureusement, y compris quand une œuvre pourrait entrer légitimement dans le domaine public, on n'est malheureusement jamais à l'abri de ces manœuvres financières. Et ça pointe une nouvelle fois le fait qu'il nous manque en France, mais pas uniquement en France, il nous manque une reconnaissance positive dans le droit, dans la législation du domaine public, qui serait le seul moyen, effectivement, de pouvoir s'opposer à ces affaires qui sont malheureusement récurrentes et qui le sont de plus en plus chaque fois qu'on touche à des œuvres qui rapportent évidemment beaucoup de royalties.
Néanmoins, Zoé, les descendants de ce monsieur Benoît récusent absolument toute accusation de vénalité.
Oui, alors déjà, ils rappellent qu'ils ne se sont pas manifestés au dernier moment, pas du tout. Leurs enquêtes sur la vie de leur grand-père, de leur aïeul, ils les ont faites il y a bien longtemps. Leur demande de reconnaissance comme co-auteur, elle date de 2005, mais selon eux, la SACEM a un peu attendu le dernier moment pour la traiter. Alors, s'ils essayent aujourd'hui de parler en leur nom propre, c'est effectivement parce que, sans doute, ils tiennent à se différencier des ayants droit aujourd'hui reconnus de Ravel, qui soutiennent leur démarche, puisque si effectivement, on le reconnaissait comme co-auteur, eux continueraient à toucher des droits d'auteur encore longtemps. Et je rappelle que l'histoire est particulière puisque Ravel est mort sans héritier. Il a cédé ses droits à son frère, lequel, à la fin de sa vie, était sous l'emprise d'une masseuse et d'un chauffeur à qui il a tout légué et qu'il gère aujourd'hui cet héritage qui a été très important dans le temps via une société écran qui est visiblement hébergée dans des paradis fiscaux. Mais pour François Tcherkessov, sa démarche n'est vraiment pas financière ni celle de ses cousins. Elle n'est pas vénale, elle est d'abord liée à la mémoire de leur grailleul.
Ces droits d'auteur sont dans la logique de la reconnaissance de l'auteur, évidemment. Maintenant, concernant le Boléro, ces droits seraient minimes parce que nous sommes sept et parce que nous ne jouons que le rôle de co-auteur et parce que, comme l'a expliqué le président de la SACEM, M. Petit-Girard, les droits attribués au Boléro, le droit d'auteur, ont considérablement chuté ces dernières années avec le passage de l'œuvre de Maurice Ravel dans le domaine public dans de nombreux pays. On l'a fait pour que le rôle majeur d'Alexandre Benoît dans la création de l'œuvre ne passe pas inaperçu, pour qu'il soit reconnu. Voilà, pour la mémoire de notre ancêtre.
Voilà, parce qu'effectivement, selon le patron de la SACEM, M. Petit-Girard, aujourd'hui, les droits du Boléro ne généreraient que quelques centaines de milliers d'euros par an. Alors, les héritiers d'Alexandre Benoît pourraient engager une action en justice, ce qui bloquerait, en fait, finalement, le fait que le Boléro tombe dans le domaine public. Mais ils le disent aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à faire ça. Si la presse parle de leur aïeul, finalement, c'est déjà gagné.
On passe au bref, Zoé, avec la disparition d'un artiste qui voulait donner une chance à la paix.
L'artiste suédois Carl Fredrik Reuterswart, j'espère que je le dis bien, sculpteur du revolver au canon exposé devant le siège des Nations Unies à New York, est mort à l'âge de 81 ans. C'est lui qui avait conçu ce fameux Colt Magnum 357 avec un canon noué comme symbole de paix après l'assassinat de son ami John Lennon à New York, ancien Beatles, en 1980. C'était le Luxembourg qui avait acquis une des premières versions de cette sculpture et qui en a fait don en 88 aux Nations Unies.
Julien Frison, 22 22 ans, retenez bien son nom. Il a été engagé le 27 avril dans la troupe de la Comédie Française. Il sort à peine du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où il est entré en 2013 après un début de carrière au cinéma. Il est d'origine belge. Il a une petite filmographie derrière lui. Il a notamment joué dans Odette Tout le Monde d'Éric-Emmanuel Schmitt, et notamment dans Sommeil Blanc, où il tenait un rôle principal. Il sera à l'affiche du film de Yann Samuel, Le Fantôme de Carterville, cette année. Il est en revanche quasiment inconnu en théâtre. Il vient renforcer le vivier de jeunes premiers de la Comédie Française après le départ de Pierre Niney en janvier 2015.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Maji yango yamecho ineni toka na uruma. Kwa kuona watu wawili wanakabulana. Mwingine naenda o mwingine nabaki ya uruma. Juu ya safari safari o safari umeumiza moyo. Wende wende ndugu, kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture et vous écoutez Papa Wemba qui vient de disparaître et qui chantait Safari. L'occasion d'embrayer avec votre safari, Claude Dantenay, celui dont vous êtes le co-commissaire au musée de la chasse et de la nature à Paris. Cette double exposition Safari Safarix, où il y a à la fois ces œuvres d'art contemporain qui reprennent, subvertissent, explorent le thème du safari. Et puis Safarix, ce sont des bandes dessinées. Le commissaire, c'est Vincent Bernière. Des planches originales de Hergé, bien sûr, mais aussi de Bilal, de Jules, de Chris Ware, de Kamagurka. Et puis une planche étonnante de François Bouc, où il est question d'une gazelle de petite vertu, ce qui m'amène à vous poser la question de l'animal au trophée. L'anthropologue Maxime Michaud se posait la question, est-ce qu'on a affaire à une réification ou à une relation amoureuse entre le chasseur et sa proie? Est-ce que la dimension amoureuse, la dimension érotique, elle a sa place dans vos expositions, que ce soit avec les œuvres de Safari ou les BD de Safarix?
Bien sûr, hein. C'est vrai qu'il y a une relation avec très étrange, de érotique si vous voulez, mais en tout cas d'amour, de fascination du chasseur qui conduit à tuer l'animal, puisqu'en fait c'est je t'aime donc je te tue. Hein. C'est la façon pour lui en fait de s'assurer la possession de l'être, mais bon, ce qui est impossible. Et il ne peut l'avoir quand le transforme en objet. Et donc voilà. Le musée est orné de toute une série de trophées qui résultent de cette rencontre. Rencontre brève et dramatique entre le chasseur et le voilà.
Ce quid finalement, c'est ça que vous nous dites?
Avec des canons superposés.
Oui, c'est vous qui le dites.
Et animal triste à la suite.
Il y a animal triste, absolument. Donc, je pense que et d'ailleurs certaines œuvres dans l'exposition le montrent. Il y a notamment une photo de David Chancellor qui est un photographe d'Afrique du Sud qui montre un chasseur dans ce qui est une sorte de théâtre avec tous les accessoires qui lui permettent justement de se prêter à l'exercice de remémoration de ses chasses, puisqu'il a fait naturaliser tous les animaux qu'il a tués. Et voilà, il est là en train de fumer son cigare.
C'est un homme
l'air
seul,
un peu perdu, c'est un homme seul. Et en fait, voilà, il attend de pouvoir jouer avec ses jouets, de pouvoir les raconter quelque chose aux visiteurs. Ouais.
Et vous, Richard Guettet, qui êtes amateur de bande dessinée, connaisseur, hein, on parle donc du Spirou de Franquin qui part à la chasse à la corne de rhinocéros, Paul Gillon qui s'attaque au lynx blanc, ce fameux baron noir parodie dans L'écho des savanes. Est-ce que dans la bande dessinée, il y a eu des inspirations aussi pour ce roman de L'aimant? Vous qu'en lisez énormément, on a parlé de votre bibliothèque et puis des influences de Jules Verne et d'Edgar Allan Poe, est-ce qu'il y en a eu aussi du côté de la bande dessinée?
Il y a quelque chose d'énorme, je pense que j'apprendrai rien à vos auditeurs, mais peut-être que si. Entre 1989, je crois, et la fin des années 80, non, le début des années 2000, il y a une grande saga en bande dessinée de 12 tomes signée, écrite, pensée, conceptualisée par Franck Le Gall. C'est la saga de Théodore Poussin, qui est ce qu'on peut faire de plus proche de l'adaptation des romans de l'univers de Joseph Conrad en bande dessinée. Donc une ligne claire magnifique et surtout un sens du récit absolument inouï. Sur les 12 tomes, il y en a à peu près, je dirais 7 ou 8 qui sont d'une absolument époustouflant sur le plan des dessins et sur le plan de l'imaginaire. Et des péripéties et des rebondissements. Et c'est drôle parce que ce matin, en préparant très consciencieusement cette émission,
c'est bien les invités qui préparent. Invité, ouais.
Oui, non, mais en la préparant, parce que je suis content d'être ici. Donc du coup, par rapport au thème de la chasse...
Et Claude qui a préparé ce matin.
Il y a un des tomes qui s'appelle La terrasse des audiences, où il y a une partie de chasse à la tigresse qui en l'occurrence, est vraiment mystérieuse, effrayante et évoque un peu l'imaginaire, l'univers colonial avec beaucoup d'ironie. On sent que c'est quelqu'un, non pas de l'époque, mais de beaucoup plus loin, qui n'est pas en amour avec ça et qui se moque aussi de ces chasseurs bourgeois. Alors là, ça se passe comme souvent chez Conrad du côté de la Malaisie ou en Inde, enfin bon bref, par là. Et en tout cas, on est sur des ils se moquent de ces colons bourgeois qui sont si fiers d'eux et qui vont... zigouiller de la bébête.
Je pense au cadeau empoisonné qu'on m'a donné en France. Je t'ai dit, on m'a donné un cadeau empoisonné, une voiture qui n'a pas d'épinay, qui n'a pas de roues, qui n'a pas de pare-brise, qui n'a pas de rétroviseur. Mais je vais rouler comment? Cadeau empoisonné, oh. Tu m'as donné voiture, oh. Voiture qui n'a pas de roue, oh. Voiture qui n'a pas de rétroviseur, oh. Voiture qui n'a pas de rappel à la mise, oh. Je vais rouler comme un, oh. Yeah, 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 Bilbo, maman, 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 yeah. Cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, cadeau empoisonné. Toko ye bisanga ye Bilbo, papa sinya soya makilie.
C'est la radio dans la radio. Vous écoutez Cadeau empoisonné de Selam Ren. C'est un titre que l'on écoute dans la radio Cargo de votre roman L'aimant Richard Guettet. Je voudrais savoir, puisque vous le rappeliez, on l'a rappelé, vous lisez la nuit sur une radio amie, Radio Nova. Il y a dans ce roman une initiation à la radio. Le héros est initié par un mentor, Sagamore Belli. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire à travers cette transmission sur ce que ça représente pour vous aujourd'hui, la radio, sur le rôle de cet outil et puis aussi sur cet art radiophonique?
Pour moi, c'est le plus beau des médias. Médias, oui. C'est le plus beau des médias. C'est-à-dire que on est en prise directe avec les personnes, en toute intimité, mais on n'est pas épuisé par la présence du corps, de l'autre et de l'apparence. C'est-à-dire que l'imagination fonctionne à 200 000%. Tout est possible. C'est-à-dire qu'on a une voix, on ne sait pas quelle est la gueule de la personne de l'autre côté du micro. Et à partir du moment où il y a de la voix, un peu de travail sur le son, on peut partir. On part et on est dans la transmission d'une personne à une personne. C'est, je trouve, la plus belle manière de se connecter avec les autres. Si j'arrive, ça va être très difficile, à retrouver le passage. Il y a une citation d'Edouard Baer dans mon roman, qu'il a, en 2007, quand Jean-François Bizot, le fondateur de Radio Nova, est mort, ils ont invité plein de gens qui l'ont connu. Edouard Baer a eu une phrase magnifique sur le travail, sur la fonction radiophonique, mais il faut que je le retrouve. C'est embêtant parce que du coup, non, ça c'est pas trop le truc.
Moi je vous propose de la rechercher et puis évidemment vous nous la donnez ensuite.
Je vous fais une parenthèse. Le cryptozoologue lyonnais dont nous parlions tout à l'heure s'appelle Camille Renversade et ça on le doit au petit peuple qui est derrière la vitre, des gens extrêmement consciencieux qui bossent et il faut leur savoir.
On n'imagine pas l'apparence, hein. Voilà. Ils sont assez impressionnants. Avant de passer au disque du jour, est-ce que vous nous offrez offririez, puisque c'est presque le moment de se quitter, Claude Dantonez, une dernière image, puisqu'il est question de rapporter des images, de les collectionner quand on fait un safari. Est-ce que, voilà, on partirait avec quelle image de toute cette collection de chefs-d'œuvre qu'on peut voir au musée de la chasse et de la nature?
Alors, je pense qu'il ne faut pas rater la reconstitution d'un cottage fictif où nous avons réuni cinq œuvres peintes par cinq artistes différents qui donnent cinq visions, justement, de l'Afrique et du safari. Et tout ça est parfaitement documenté, y compris par des historiens d'art. Bon, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'en fait, ces cinq artistes n'existent pas. C'est une fiction. Et en fait, c'est aux visiteurs d'être très attentifs puisque ça fait partie des nombreux pièges à visiteurs qui sont disséminés à travers le parcours du musée.
Ping-pong. La culture sans limite.
Zoé, nous passons au disque du jour. Y a-t-il des lions, des sphinx de glace à l'intérieur?
Il y a une lionne, on pense qu'on peut dire ça. La femme, le secret le mieux gardé de la soule, c'est comme ça que sa maison de disque, elle la présente. C'est Martha Haye qui sort un nouvel album. Elle est restée longtemps dans l'ombre, puisque c'était la choriste pendant des années 25 ans de James Brown, puis la chanteuse principale du groupe mythique de Maceo Parker. Et en fait, longtemps, elle est restée dans l'ombre des choristes. C'est à 50 ans qu'elle a sorti ses premiers albums solo. Le nouveau s'appelle Singing for the Good Things. On y retrouve à la fois toute la puissance de la soul, la beauté d'une femme qui arrivait à la maturité de son art et une certaine idée, une certaine couleur des grands tubes italiens des années 60, puisque c'est tout simplement le mythique arrangeur Luca Sapio qui réalise cet album extrait Love Light. Love Light, la voix de Martha Haye, issue de son nouvel album Singing for the Good Things. Il est sorti en avril. Sachez qu'elle sera en concert avec le GB's Original James Brown Band au Cahors Blues Festival. Ce sera le 16 juillet prochain.
Merci Zoé, on vous retrouve demain pour un nouveau disque du jour. Et si vous avez le temps, vous regardez ce documentaire 20 Feet from Stardom sur ces choristes soul restés dans l'ombre.
Ping pong.
C'est déjà fini? Mais pas tout à fait.
Il y a un post-scriptum.
Exactement, un PS de Richard Guettet. Vous cherchez une phrase d'Edouard Baird, une citation, vous l'avez?
La radio n'est pas envahissante comme la télé. Elle n'atteint pas tous vos sens. Il n'y a pas cette manipulation, cette prise de cerveau totale qu'inflige la télévision. La radio s'invite dans notre salon, mais ne la remplit pas comme la télé, toujours au centre. Et puis la radio est dans la chambre à coucher, ce qui est magnifique. Moi, la radio, c'est le matin et c'est la nuit. Le matin, même alors qu'on ne supporte pas encore la personne avec qui on vit, qu'on n'a pas encore pris deux cafés et trois douches froides, eh bien, on accepte la voix du chroniqueur qu'on aime bien. La nuit, c'est pareil. Tous ceux qui ont écouté une voix la nuit savent la force, la présence. C'est un peu comme, pour les marins, les lueurs de la lune sur la mer.
Merci Richard Guettet, on croyait entendre l'animal Edouard Baird. Dans votre voix, vous êtes donc l'auteur de L'aimant aux éditions Intervalles. Merci à vous, Claude Dantonez. Vous commettez cette nouvelle exposition au musée de la chasse et de la nature à Paris, Safari, Safarix, la bande dessinée c'est jusqu'en juillet, et Safari jusqu'en septembre.
Le ping-pong est une aventure radiophonique qui se vit en équipe. Et quelle équipe! À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Delis, Chloé Leblon et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige et Dofar Guéride.
Mais quid de notre prochaine escale, Mathilde?
Demain, le fantôme de Chris Marker et celui de la poétesse Kimiko, avec Maroussia Vossen et Anna Dubosc.
Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.